vos animatrices, Ève et Maxime.
L'optométriste me suggère de faire plus de pauses d'écran, alors je lève les yeux, les oblige à quitter Word, à se poser sur la fenêtre sale, sur la caserne de pompiers qui me fait face, sur l'espace entre la caserne et l'immeuble à condo, une portion de la rue Saint-Jean. Je vois les métrobus s'arrêter à Turnbull. Je vois à l'intérieur les corps qui se meuvent, qui quittent leur siège et qui tendent vers la sortie. Comme moi, je quitte ma chaise de bureau et me demande si je ne devrais pas sortir de mon 2,5. Mais c'est l'hiver, il fait froid, mon lit est juste à côté. Puis même les gourous du DEP ne suffisent pas à ce que j'enfile mes bottes et tende vers elles. Pourquoi sortir dehors si le dehors s'invite dans mon minuscule appartement? Je préfère m'allonger, me glisser sous les draps, revenir à l'écran, éviter les gens et les trottoirs glissants de Saint-Jean-Baptiste, prendre plaisir à écrire l'enfermement.
Watched you on your first day of school. The episode when you lost your first tooth. You can't leave, Truman.
Please, God.
You belong here.
You can do it.
With me. Talk to me. Say something. Say something, goddammit! You're on television! You're live to the whole world!
Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous écoutez le cabaret du crachoir sur les ondes de Chiz 94.3. Je suis votre animatrice Ève en compagnie de Maxime, également
bien,
animatrice de l'émission. Comment ça va Max?
Ça va très bien, contente d'être avec toi encore une fois.
Moi aussi! On vient d'entendre un extrait du film de Truman Show de 98, je crois que tu connais Max.
Mm-hmm. Un film que j'ai beaucoup apprécié, je suis contente que tu choisisses un extrait de ce film.
Moi aussi! Juste un petit rappel pour ceux et celles qui sont moins familiers, là. Dans ce film, Truman Burbank, joué par Jim Carrey, vit sur le set d'une télé-réalité diffusée 24/7 qui se nomme The Truman Show et dont il tient le rôle principal. Sauf que lui, il ignore que sa vie se passe sur un set et qu'elle sert à divertir des millions de spectateurs.
Oups.
Dans l'extrait qu'on vient d'entendre, on entend le créateur de l'émission, Christophe, manipuler Truman en lui disant qu'il le connaît mieux que lui-même, que c'est sa peur qui l'empêche de quitter ce monde simulé, que sa place est là, avec lui. Mais Truman est au courant de tout et il décide, là, à la fin de cette glorieuse scène finale, de quitter le plateau de tournage, la seule vie qu'il a connue pour de bon. Et notre thématique d'aujourd'hui, hein, c'est l'enfermement. Écrire l'enfermement. Et moi, ça m'a immédiatement fait penser à ce pauvre Truman enfermé dans une fausse réalité pendant quand même 30 ans, mais qui finit par trouver la liberté. Alors, je crois pas que ce matin, on va parler de monde simulé, de fausse réalité, mais bon, ça fait partie, c'est ça, de l'univers de créatif, là, qu'on va peut-être mm-hmm. aborder.
Toi, en parlant d'enfermement, t'as pensé à ce film-là. Moi, en parlant d'enfermement, j'ai pensé au livre d'une de nos invitées, très
oui.
précisément.
Ah, c'est parfait. Oui. C'est parfait.
Les choses sont bien faites. Donc, oui. Ça me fait très plaisir qu'on parle d'écriture de l'enfermement. Enfin, ce matin avec nos deux invités. Ève, je crois que tu souhaites te lancer dans les présentations.
Absolument. Alors, je vais présenter la première invitée ce matin, qui est une autrice originaire de la rive sud de Québec. Je vous présente Catherine Danjou, finaliste au prix de la Poésie Radio-Canada 2016 et en lice pour la bourse Lagardère. Elle a fait paraître en 2015 son premier livre, Le Plan, aux éditions La Mèche. Et le 8 octobre dernier, quand même, son recueil de poésie, On retourne toujours à Old Orchard, qui est paru chez Delbusso Éditeur. Il faut aussi mentionner que ce mercredi 13 décembre, dans le cadre du festival Jamais lu, vous pourrez vous rendre au Périscope afin d'assister au projet théâtral I Am Fake News, une histoire de survie qu'elle a écrit et qui est mise en lecture par Caroline Fouché.
Ça va être malade.
Yes, on a bien hâte. Pour terminer, notons que si sa bibliothèque s'apprêtait à brûler, Catherine choisirait de récupérer 3 livres, soit Les Maisons de Fanny Britt, Les Grandes Blondes de Jean Echenoz et Faire l'amour d'Anne-Marie Olivier. Bonjour Catherine.
Allô.
Merci d'être avec nous aujourd'hui.
Ça me fait un grand plaisir de parler littérature avec vous ce matin.
Oui, moi aussi.
Avec joie. Et ben, quant à moi, j'ai l'honneur de présenter Marie-Ève Muller. Bon matin à toi.
Bonjour.
Marie-Ève, vous l'avez peut-être découverte dès 2019 avec La résilience des corps. C'est paru chez Instant Même. Et c'est un livre qui lui a valu d'être finaliste au prix du Salon du livre de Québec la même année. Plus récemment, c'est avec une nouvelle gain. C'est paru dans Épiderme chez Tête Première qu'on a pu la lire. On nous dit qu'à l'automne 24, c'est cette fois en poésie qu'on pourrait la découvrir avec un inventaire des silences. Marie-Ève, comme écrivaine, a probablement une bonne bibliothèque, mais ne relit pas normalement les livres qu'elle a aimés.
Je sais.
Ouais.
Je fais la même affaire avec les films. Je les vois une fois. Il n'y a pas le temps de niaiser. Il y en a trop de livres qui paraissent pour les lire deux fois.
Je me fais exactement la même réflexion.
Bonne attitude.
Et si donc, si sa bibliothèque brûle, avec quoi Marie-Ève Muller va quitter sa maison? Probablement avec ce qu'elle considère comme son premier livre, Les lettres d'amour échangées avec un amoureux qui ont été reliés. Ça, c'est vrai que c'est précieux. Il y en a 2 exemplaires, hein, donc vaut mieux en sauver un.
De toute façon, mes bons livres, ils sont tous prêtés à quelqu'un. Donc, j'ai pas grand-chose à sauver.
Ah ben, c'est bon, ça. Les bons livres sont déjà chez les amis. En sécurité. Merci d'être avec nous, Marie-Ève.
Merci de m'avoir.
Fait que je pense, si on y va, là, vite fait, mais disons en quelques phrases, si je vous demande pour vous, chères autrices, puis Max aussi, si jamais, qu'est-ce que ça évoque pour vous, l'écriture de l'enfermement? Vite comme ça, pour débuter.
Ben, pour moi, en fait, je réfléchissais dans la 800, enfermée dans une boîte de conserve. Puis je me disais que, en fait, je trouve que c'est une posture d'observation, c'est une façon de regarder le monde, puis, tu sais, de justement se construire une forme de liberté. Dans l'extrait de tantôt, tu sais, le personnage veut quitter le monde dans lequel on l'a mis. Moi, j'ai tendance à avoir des personnages qui veulent, en fait, s'enfermer, une espèce de... Ils consentent à l'enfermement d'une certaine façon parce que c'est sécurisant. T'sais, y a-t-il quelque chose de plus confortable que notre maison? Mais en même temps, cette maison-là peut rapidement devenir une prison, etc. Fait que le rapport au lieu où on habite est super intéressant parce qu'il y a une tension. Faut garder un équilibre entre l'envie d'y rester, mais la capacité d'en sortir aussi. Puis je trouve que c'est un beau lieu d'écriture.
Mm-hmm. Dans mon écriture, l'enfermement, c'est vraiment plus comme quelque chose de subi. Je travaille aussi un roman où c'est un huis clos sur un voilier, puis ça aussi, c'est le genre d'espace où on peut pas sortir comme on veut. Si on sort, ben c'est la noyade. Fait que je trouve que c'est des univers qui nous permettent de pousser à l'extrême des situations, qui nous permettent d'aller un peu dans des questions éthiques très fortes qu'on n'a pas l'occasion d'explorer nécessairement autrement que dans des lieux où on est pris en otage, parfois de notre plein gré, mais ça se revire contre nous, parfois ben c'était pas du tout le plan initial. Puis
je pense aussi que dans que je sais pas pour toi, mais dans mon cas aussi, c'est une façon de convoquer le lecteur, dans le sens où si on crée un huis clos, par exemple un bateau, ben je sais que mon lecteur est assis avec moi. Tu sais, il peut pas aller se promener dans la ville. Tu sais, l'espace est restreint. Puis j'aime avoir une espèce de lecture participative. Fait créer un lieu qui a des murs. Ben si je sais, je le contrains lui aussi. Fait qu'il y a cette lecture-là aussi. Le lecteur se retrouve enfermé avec moi en ce lieu-là.
Il n'y a pas que le personnage,
voilà,
qui est sur place.
Tout le monde est pris.
Wow!
Voyons. Lire Catherine d'Anjou pour être enfermée. Sachez-le.
Argument de vente.
Mais ça fait vraiment, justement, une tension qui est très importante et qui transforme n'importe quelle histoire un peu en thriller parce que le lecteur, la lectrice aussi est enfermée avec les personnages puis se retrouve dans cette situation qui est toujours grinçante, ce qui est vraiment un matériel intéressant à travailler.
Tout à fait.
Je me dis, on pourrait commencer immédiatement avec la première lecture de Catherine, si ça te va.
Allons-y.
Tu vas nous lire un extrait ou quelques extraits de ton livre Le Plan, le paru en 2015.
En fait, c'est un extrait que j'ai, disons, édité.
C'est ça. Mmh. Parfait.
Eh bien, édité. C'est
tout à fait.
Super. Allons-y.
Aux yeux du monde, mon appartement ne compte aujourd'hui que 3,5 pièces. Si l'on venait à découvrir ce qu'il cache, je craindrais d'être envahi. Le petit placard devant lequel je me tiens dissimule l'accès à la quatrième pièce que j'ai transformée à force de travail en un bunker où j'accumule le nécessaire, où je prévois tout. Il existe des tas de guerres, des tas de fins du monde et elles éclatent n'importe où et pour n'importe quelle raison. Elles ne nous laisseront pas le temps de réagir, il faudra être prêt. La construction d'un bunker paraissait incontournable. Le jour fatidique, je ne manquerai de rien et j'assurerai ma propre survie. Mon plan doit demeurer secret. Sans cette précaution, les jours où les choses tourneront mal, elles finiront par mal tourner, les imbéciles heureux surgiront chez moi en m'implorant de les aider. Tapis dans mon bunker, je graverai sur le sol qu'il est inutile de courir. Je pose le sac que je tiens dans ma main au sol et j'appuie mes deux paumes sur le mur du fond. Le cuir rêche d'un manteau frotte sur ma peau. L'impossible se produit. Les quatre petites roues de plastique encastrées sous le raie se meuvent sur le plancher. Au fil de mes pas, le double fond se déplace comme un décor de théâtre. La boîte penderie se décolle de ses ancrages. J'actionne l'interrupteur. La lumière filtre par les côtés. Les plans de l'avenue Cartier que je dessine chaque dimanche s'amassent dans une boîte de carton près de l'entrée. Les plus anciens au fond, les plus récents sur le dessus. Comme ils s'améliorent de semaine en semaine, j'épinglerai le plus représentatif aux fins de consultation le temps venu. Ma mémoire pourrait défaillir à cause du stress. Être prêt. Je ne peux m'en empêcher, j'éprouve de la fierté dès que je mets les pieds dans mon bunker. Sa construction m'a causé tant d'ennuis que je savoure ce moment avec plaisir. Depuis, j'exècre les activités manuelles. La première semaine, j'avais arraché les moulures encadrant la porte de la chambre condamnée et reconstruit une partie du mur pour réduire la taille du chambranle. Puis j'avais peint et repeint sans oublier de tacher les murs pour qu'ils correspondent à l'âge présumé de mon appartement. Une peinture trop éclatante aurait trahi une entreprise récente. Ensuite, j'avais fixé une petite porte pliante pour combler l'embrasure. Plus je sciais, plus la poussière de gypse m'étouffait et adhérait à mes cheveux. Je maîtrisais mal les outils, mais demander de l'aide aurait été regrettable. En guise de représailles, mes poumons exécraient de temps à autre des agglutinats de plâtre. Rien n'aurait pu m'arrêter. La deuxième semaine avait été réservée à l'élaboration du double fond. L'idée m'apparaît encore à ce jour ingénieuse. À notre époque, les gens ne croient plus au secret. À l'évidence, la porte pliante seule aurait prêté à suspicion. J'avais donc bâti les trois murs manquants pour créer l'illusion d'un véritable placard et ainsi enlever l'envie à quiconque de chercher plus loin. Je me souviens de la sueur qui irritait mes yeux brûlants déjà de fatigue à force de fixer la petite bulle d'air du niveau. Je m'assurais à chacune des étapes que tout soit droit, extrêmement droit. Comment aurais-je pu fermer l'œil si ma construction avait le moindrement menacé de s'écrouler à cause d'une mauvaise répartition des charges? Au bout de 14 jours, j'avais terminé l'assemblage par l'installation d'une tablette et d'une tringle. Elles accueilleraient bientôt manteau, écharpe et chapeau. Je ne m'étais pas autorisée à me réjouir. La fin de cette phase ne correspondait qu'au début de la prochaine et je l'imaginais périlleuse. Bien dupe celui qu'un placard vide n'alerterait pas. Certes, la porte d'origine avait disparu et un faux placard la remplaçait, mais mon stratagème n'était pas pour autant infaillible. Il importait de le remplir, de le charger jusqu'à entraver la fermeture des portes. Vide, il suscitait la méfiance. Quoi de plus intriguant qu'un placard désert, n'est-ce pas? J'avais accroché le dernier foulard au cours du mois de novembre. Dans mon placard, les parkas succédaient maintenant aux blousons légers. Au moment de refermer la porte pliante, je me rappelle m'être effondré. Tant de fatigue, tant d'angoisse. Couché sur le sol, j'avais fixé ma réalisation en riant. Mon simulacre était parfait, personne ne savait et personne ne saurait. Je l'ai mentionné, la création du placard n'avait signé que le début d'une longue épreuve. Astucieux, tous ces manteaux, judicieux, ce double fond, mais cela s'avérait inutile si mon bunker ne refermait que des sacs de rasoirs jetables et des pains de savon. Mes chances de survie seraient alors inversement proportionnelles à la qualité de mon hygiène. Face à l'ampleur du travail, je m'étais rassurée en pensant qu'au moins, cette dernière phase en appellerait à mon intellect plus qu'à mes capacités physiques. J'avais à résoudre une question primordiale. De quoi a-t-on le plus besoin en cas de fin du monde? Cette question m'avait amené à découvrir que les autorités publient chaque année un document dédié au sujet. En théorie, il ne fournit qu'une liste des articles nécessaires à l'élaboration d'une trousse d'urgence. Verdict, cette liste est ridicule et ne permettrait à personne de survivre plus que 72 heures. 72 heures de guerre. Pour mériter son titre, le bunker devait subvenir à mes besoins pendant au moins un an. J'avais choisi de m'installer à l'intérieur pour résoudre le problème. Assis là, j'avais la liberté d'imaginer l'ensemble des scénarios possibles. Pour obtenir un inventaire de vivres raisonnable, j'avais dû multiplier par 20 le nombre d'items proposés par les autorités et y ajouter quantité d'articles. J'ordonnais les impossibles qui se bousculaient dans ma tête depuis déjà plusieurs mois. Relire la liste, l'allonger, la bonifier, encore. La mémoriser, ne rien omettre, penser à tout. Penser aux guerres, toutes les guerres, guerres civiles, bactériologiques, nucléaires, aériennes, navales. Je n'exerçais aucun contrôle sur le reste. Des comètes exploseraient peut-être la Terre et des tsunamis m'emporteraient ou pas. Tandis que contre les guerres et les hommes, il suffit d'être prêt.
Merci pour cette belle lecture, Catherine. C'était super divertissant. J'ai beaucoup aimé. Tu lis très bien. C'est ça, on sentait le huis clos. Ben, littéralement, dans un huis clos en ce moment, dans le studio.
Tout est dans tout.
Tout est dans tout.
Wow!
Ben, Marie-Ève, peut-être, pour débuter comme ça, qu'est-ce que t'en penses, vite comme ça?
Mais j'aime bien qu'on ait quelqu'un qui pense à un enfermement futur pour diverses raisons, mm-hmm. Qui se prépare et qui a vraiment un plan élaboré. Et bon, ma mémoire commence à défaillir. J'ai lu ce roman à sa parution, donc je me souviens plus de tous les détails, mais je me souviens bien de justement ce côté méticuleux du personnage qui le rend particulièrement attachant, même si c'est pas nécessairement quelqu'un avec qui on aurait envie de s'attacher dans la vie quotidienne. Ce souci du détail qui fait qu'on prend plus attention aussi à notre appartement, à notre lieu de vie, parce que tout à coup, on se dit, moi, qu'est-ce que je ferais? Et je pense qu'en plus, le relire aujourd'hui, maintenant qu'on a vécu une pandémie et une certaine forme de panique quand Catherine disait, qu'est-ce qu'on a besoin en cas de confinement? Ben là, clairement, tout le monde a pensé, du papier de toilette. Ouais. Alors que pour
ça
moi,
ça prend pas d'autre chose que du papier de toilette.
C'est tellement bon à manger. Clairement, c'est la première affaire sur ma liste. Mais bref, blague à part, on sent bien justement l'aspect presque, le côté méticuleux qui s'en va vers le maladif et cet enfermement volontaire dans un milieu en se disant je suis prêt à tout et je préfère survivre tout seul que de périr avec tous et toutes.
Mm-hmm. Ben, je pense que aussi, tu sais, j'avais participé à un colloque universitaire à la sortie du roman. Je me suis infligée de réécouter la discussion en me disant que c'est une façon express de me préparer.
Infligée.
C'est se réécouter. Là, je suis un bébé universitaire. Là, c'est insupportable. Mais je parlais du langage aussi dans ce roman-là, ce qui a fait terminer ton intervention. Je voulais aussi créer cette accumulation-là chez le lecteur. Tu sais, il y a tellement de listes. C'est souvent des phrases très, tu sais, relativement courtes pour essayer de créer un rythme. On est essoufflé avec le personnage de penser à toutes ces choses-là parce qu'effectivement, que si on s'imagine s'asseoir puis penser à qu'est-ce qu'on fait si le pire se produit, mm-hmm. ça finit plus, tu sais. Mm-hmm. Puis on n'est pas bon, tu sais, comme occidentaux pour penser aux choses quand ça va pas bien. Fait que ça devient rapidement bouleversant. Puis il y avait cette idée-là aussi. Je relisais un peu des extraits du livre puis sans la nommer, tu sais, il y a l'éco-anxiété qui traverse mon personnage, tu sais. Il dit la fin du monde arrivera peut-être ou pas. Maintenant, en 2023, notre inquiétude, c'est qu'on la voit arriver maintenant. Et je relisais ça en m'angoissant un petit peu, tu sais, en me trouvant attendrissante, tu sais, il y a quelques années, de penser que c'était pas si pire que ça, la menace environnementale, tu sais, puis je relisais le truc, puis clairement, ça transparaît dans le discours. Fait que, avec la pandémie aussi, on l'a exploré, cet enfermement-là. Donc, il y a tout ça là-dedans. On sait que l'enfermement nous menace, tu sais, entre guillemets, nous menace, là, tu sais, ça peut revenir, là.
Je sais pas pour toi aussi, la guerre en Ukraine a changé les choses pour moi parce que c'est une guerre en Occident, dans le Nord, tandis que il y a des guerres constamment dans plusieurs pays. Mais celle-là a fait penser, ah, mais peut-être qu'on s'en va vers une troisième guerre mondiale, puis ça m'avait refait penser à ton livre.
C'est ça, fait qu'en relisant le livre, je trouvais qu'il était très ancré, pas pour me taper dans le dos, là, mais je trouvais qu'il était très ancré dans notre réalité d'aujourd'hui. Pour en revenir à l'enfermement, tu sais, je pense que c'est une posture d'écriture qui est peut-être, j'haïs ça de dire le mot nécessaire, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'un littéraire est en entrevue, on entend le mot nécessaire. mais qui est nécessaire de, au moins, s'asseoir dedans, prendre le temps de se dire où suis-je dans ce monde-là, puis je pense que c'est ce que j'explore par l'écriture.
De le relire après une pandémie, ce roman-là, c'est vrai qu'il y a comme une deuxième lecture qui se fait, puis on parle beaucoup d'enfermement physique, mais je pense que la pandémie a amené aussi un genre d'enfermement psychologique là, dans nos chambres d'écho, que ce soit avec des gens qui pensent les mêmes choses que nous. Fait que je le vois au-delà du quatre murs, l'enfermement, il y a ça dans s'enfermer dans une posture aussi.
Tout à fait, puis dans le cadre de ce colloque-là aussi, je disais que je voulais réfléchir à la solitude parce que je trouvais qu'on lui faisait pas assez de place socialement. Il y avait beaucoup l'idée d'être en groupe, de sortir, etc. Puis comme écrivaine, ben tu sais, c'est sûr que la solitude est requise, là. On n'écrit pas des livres à 12. On peut, mais c'est plus compliqué. Fait que j'avais une volonté de redorer ça parce que je trouvais qu'on lui faisait pas assez de place. Alors que là, ben présentement, cette solitude-là, elle est partout. C'est un enjeu de santé publique, etc. Fait que je trouvais qu'il y avait, alors que je pensais avoir fait une œuvre très fictionnelle avec des personnages justement que je mets volontairement en décalage de la réalité, c'est une réalité qu'on connaît, mais je tasse les lunettes de 15 cm un peu, je rends une chose bizarre et tout devient différent. Là, je trouvais que la vie telle qu'elle se le déroule avait ramené un peu le décalage que j'avais pensé instaurer en l'écrivant.
Est-ce que tu t'es placée dans les mêmes conditions que ton personnage? Tu sais, Catherine d'Anjou dans un bunker, elle fait quoi, là? À quel point c'est qu'il y a de la fiction?
Pour citer un de mes amis qui a dit une chose très intelligente et que je répète maintenant depuis 15 ans, moi, dans ma tête, j'y vais quand je veux. Que c'est, donc oui, tu sais, parce que pour moi, l'écriture romanesque, c'est un jeu. C'est de prendre un personnage, puis de dire, bon, imaginons XY et marchons avec lui dans la vie. Donc, tu sais, pendant l'écriture, moi, je suis absorbée par ça. C'est à ça que je réfléchis. J'essaie de me dire, bon, ben, j'ai pris cette décision-là, mais si j'étais mon personnage, qu'aurais-je fait à l'épicerie, tu sais? Fait que je fais cette espèce d'exploration-là un peu funnée, mettons, dans ma tête. Là, je pense que... Parfait, c'est
non,
ça.
Non,
donc oui, tu sais, vraiment, puis c'est le plaisir que j'ai d'écrire, c'est de jouer à être quelqu'un d'autre. Pourquoi s'empêcher, dans le fond, tu sais? C'est un beau lieu pour enfiler d'autres peaux que d'écrire.
Tout à fait. Ouais. Donc, est-ce que tu te retires aussi, peut-être pour écrire, ou tu le fais chez toi, tu le fais entouré, certes dans une certaine forme de solitude, mais à quel point tu as besoin, comme écrivaine, d'être toi aussi enfermée pour.
Ben, je pense qu'il y avait aussi une espèce de plaidoyer là-dedans, là, même si ça, c'est pas ça la volonté, mais c'est que j'étais beaucoup dans des milieux où, tu sais, j'ai travaillé dans les bars, etc., où j'étais très entourée, donc. La petite fille à lunettes le vendredi qui finalement va écrire chez elle, tu sais, il y avait toujours une espèce de défendre cette solitude là, tu sais, puis c'est quelque chose que j'apprécie, puis je pense qu'on peut être plusieurs personnes à la fois aussi, tu sais, on peut être quelqu'un de social et quelqu'un qui a envie de se faire sacrer patience des fois. Fait que de pas avoir à légitimer, tu sais, ce jeu là, ces identités là, fait que je pense que c'est pour ça aussi que dans l'écriture, je me permets des personnages qui se demandent et si j'étais une autre personne. Tu sais, la pièce que j'ai qui va être présenté mercredi, c'est ça aussi. J'ai une personnage qui se dit « Et si je faisais d'autres choix? Et si je faisais des choix que les autres ne savent pas que j'ai fait? Qu'est-ce qui arrive? » Donc, je pense que, tout à fait, là, pour répondre à ta question, je pense que c'est pour moi, c'est nécessaire de se placer dans cette position-là.
Ça fait du bien d'entendre que les deux positions peuvent vraiment cohabiter puis que c'est bien correct.
Faut arrêter de capoter avec ça.
Oui, à toi, Ève.
Ah non, non, je pensais que tu voulais...
Renchérir? Oui. Non, 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 non. Marie-Ève, je sais pas si ce qu'on... ce que Catherine évoque, ça fait écho chez toi, notamment sur le besoin de se retirer, d'être enfermée soi-même comme autrice.
Tout à fait. Même mon premier roman, je l'ai écrit, donc La résilience des corps, je m'étais retirée sur une île à Terre-Neuve où il y a 125 habitants puis un traversier par jour. Fait que là aussi, on tombe dans une forme de huis clos. Je m'étais dit, il y aura personne qui va me parler, mais non, c'était la saveur de l'été, une nouvelle personne sur ta petite communauté. Fait que finalement, j'ai soupé trois fois tout seul, là, mais ça a été vraiment génial parce que justement, quand on écrit des textes, disons, chargés émotivement, je pense que moi, j'avais besoin qu'on me sorte de ma bulle parce que des journées où j'écrivais toute la journée en chauffant le poêle à bois, ben, je pense qu'à la fin de la journée, j'aurais fini par montrer les dents puis être moi-même complètement survoltée par ce qui se passait dans mon écriture. Puis pour le recueil de poésie, j'ai eu la chance d'avoir une semaine de résidence dans le Bas-Saint-Laurent avec le Clac-Mitis. Et là aussi, c'était tempête, je connaissais personne. Fait que vient une forme d'enfermement qui permet d'aller... Mais j'ai le goût de dire gratter le bobo, même si dans le cas du roman, c'était pas une autofiction, mais ça permet d'aller justement chercher les émotions qu'on se donne peut-être pas la chance de vivre tous les jours, la colère, la peine, la folie, qui, bon, mettons la folie comme une émotion, pourquoi pas, mais bref, ça nous permet d'aller justement chercher des extrêmes qu'on se permet pas nécessairement dans notre vie quotidienne, d'aller jusqu'à ce point-là, jusqu'à ce niveau-là.
De rester dans l'axe aussi, tu sais, de pas être diverti par une livraison d'épicerie ou etc., tu sais, de juste être capable de rester sur un truc, c'est une chose que le monde nous permet plus ou moins.
Oui, c'est ça. J'ai essayé d'écrire en écrivant 2 heures le matin ou une demi-heure. J'avais essayé le truc, 250 mots, mais je trouve qu'on le sent dans la lecture du texte qui en sort parce que c'est quelque chose qui est toujours assuré, qui permet pas de se laisser complètement habité. Puis je sais pas si pour vous ça vous fait ça, tomber en état d'écriture où là le fil mental a plus le même rythme, a plus la même voix, c'est plus la même chose, on habite pas l'espace, tout à coup on est vraiment juste dans notre monde, puis ça crée nous patience, on est en train de créer, on est dans notre univers, et ça, l'enfermement volontaire, parce que d'avoir une porte de sortie est nécessaire, je pense, permet une belle créativité. Mm-hmm. Est-ce que je suis pas sûre qu'un enfermement non volontaire permettrait?
Tout à fait. Puis tu sais, chez les sportifs, on parle de être dans la zone. Là.
Ouais. Mm-hmm.
C'est la même chose pour la création puis les arts. Là. Puis il faut créer. Tu sais, si tu vas performer, ben il y en a plein qui ont des petites routines, etc. Juste pour se mettre dans cette posture-là. Tu sais, fait que je pense que comme écrivain, faut aussi accepter cette partie-là, entre guillemets, matérielle, tu sais. Je me mets en contexte, je crée une façon d'être dans la zone.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. C'est ça que je me disais quand j'écrivais mon petit texte d'introduction, je me disais comment écrire l'enfermement, tu sais. Puis là, je pensais à ma posture d'autrice, tu sais, dans quel état je me mets. Puis là, je suis toujours dans mon petit appartement, comme je disais, mon petit 2,5. Puis je me suis dit, OK, je vais écrire. Littéralement, tu sais, qu'est-ce que je fais quand je m'enferme? C'est quoi ma posture? Puis là, je pensais au gourou du DEP, là, justement, les seules choses qui me font sortir d'un fois. Puis là, je me disais, oh non, même en ce moment, je peux même pas sortir, faut que je reste là. Fait que c'était vraiment un bel exercice. Je suis contente que vous soyez là. On dirait que j'avais jamais trop pensé, on dirait, à l'enfermement dans l'écriture, mais tu sais, même par la position du lecteur. Puis notre position en tant qu'auteur aussi, autrice, ça renferme tout ça.
Tenir son lecteur enfermé, ça, j'aime ça beaucoup. Oui, c'est vrai, son imagination ne peut pas aller ailleurs. C'est ça le lieu, je le circonscris. Marie-Ève, quand tu dis être en état d'écriture, ça me parle beaucoup aussi. Je sais pas pourquoi j'ai imaginé un ours qui allait être en état d'hibernation, alors que moi, quand je vais dans le bois, je suis en état d'écriture, tu sais. Je suis comme, ouais, c'est vrai que ça m'habite au complet. Puis là, ben, ça me donne envie de me retirer et qu'on me sacre patience pour aller écrire.
Fini la console. Ah ouais, va écrire.
Au revoir! Ouais. Ben, pause publicitaire, justement. Et au retour de la pause, ben, on continue de parler de l'écriture de l'enfermement avec Marie-Ève Muller et Catherine D'Anjou. Ce sera l'extrait de Marie-Ève pour cette dernière édition, Ève, du cabaret du crachoir de l'année 2023.
Hey, c'est vrai.
Oh là là. Oh non, c'est le temps des revues de fin d'année. Je voulais pas penser à ça. Courte pause et nous serons de retour au cabaret du crachoir.
Ou bien c'est moi qui n'en veux pas. Écoute locale avec Chiz 94.3.
Voici un message d'intérêt public.
Si t'es un mélomane de Québec et que t'aimes des artistes comme Jimmy Hunt, Wednesday, Laurence Anne, Nouchou, Hiatus, Coyote, Fudge, pis que t'es vraiment tanné d'entendre des tunes dans ce genre-là.
Que t'aimes ça découvrir de la nouvelle musique émergente, qu'elle soit locale ou internationale, c'est au Club Critique que ça se passe. Go!
Un mardi sur deux, de 14 à 15 heures, on décortique trois albums et on écoute de la musique parce que c'est la seule chose qu'on sait faire.
Qu'on aime faire.
Club Critique, c'est ma opinion musicale.
A priori, c'est un cocktail de jasette à saveur politique, sociale et militante, gracieuseté des étudiants et étudiantes en affaires publiques et relations internationales de l'Université Laval. Au menu, des conversations dynamiques, informées et engagées qui vous feront réfléchir. Donc, si vous voulez écouter des jeunes politiser, vous partager ce qui les anime ou ce qui les garde éveillés la nuit, c'est un rendez-vous les mercredis 10h sur les ondes de Chiz 94.3.
On parle de changement climatique, mais parle-t-on assez de justice climatique? Dans la mire climatique, c'est deux passionnés de politique qui sont là pour décortiquer avec vous l'enjeu de notre génération sous un autre angle. Parce que la transition énergétique, c'est bien plus qu'une question de réduction des GES. C'est aussi une question de justice. Écoutez Dans la mire climatique tous les lundis de 13h30 à 14h sur les ondes de Chiz 94.3.
Va te parler d'une autre bière, Jacques.
Ah, y a d'autres choses à faire dans la vie que de boire de la bière, Éloi.
Ben non, il se passe jamais rien dans la vie, c'est full plate.
Hey, ça paraît que t'écoutes pas à l'antenne sur Chiz. Depuis que j'écoute ça, je connais non seulement toutes les nouveautés au Trident, mais aussi la moyenne au bâton de Mark Goodzelanek en 99, toutes les potins de la rue Saint-Jean, puis en plus, il y avait toutes sortes d'autres mondes, parlait plein d'autres affaires.
Ben coudon, c'est jeudi de 13h30 à 14h en plus. Ouvre la radio puis monte le son
sur les ondes de Chiz 94.3.
Le cabaret du crachoir. Chiz 94.3.
Petit moment musical pour revenir au cabaret du crachoir sur les ondes de Chiz 94.3. Vous venez d'entendre la chanson d'introduction du spécial d'humour de Bo Burnham, diffusé sur Netflix en 2021, qui se nomme Inside. Tu connais ça, Max?
Oui.
On se disait, comme tu dis, Bo Burnham, génie musical.
Que s'est-il passé avec Inside, Eve? Ben, qu'a-t-il fait, Bo Burnham?
Ben, c'est un spectacle enregistré à la maison à l'époque COVID. Hein? Aujourd'hui, on parle d'écrire l'enfermement. Alors, comment parler d'enfermement sans parler de cette époque-là, mm-hmm, en confinement? Comme j'ai dit, c'est paru en 2021 et on y entend principalement des chansons, des sketchs humoristiques écrits par Burnham qui parlent d'isolement, de notre rapport aux médias sociaux, entre autres, et surtout de la fragilité de la santé mentale, disons, dans le contexte pandémique. Dans cette chanson « Content » qu'on vient d'entendre, on remarque que l'enfermement devient un espace créatif pour celui qui est enfermé, un espace propice à l'écriture, à la création de contenu, comme il dit. Voyons l'espace, je dirais, c'est ça qui est intéressant, comme espace créatif, mais aussi comme objet d'écriture, mm-hmm, parce qu'on écrit aussi sur l'enfermement.
Tout à fait. Et c'est le cas de nos deux invités d'aujourd'hui. Marie-Ève Muller, Catherine Danjou, merci d'être avec nous. Et la seconde partie de l'émission est consacrée désormais plutôt au texte de Marie-Ève, mais le thème restera le même, écrire l'enfermement, bien sûr. Et c'est un extrait de quel ouvrage que tu as choisi de partager avec nous aujourd'hui, Marie-Ève?
C'est La résilience des corps, un roman paru en 2019 à l'instant même. Et merci d'ailleurs de nous inviter à parler de textes qui sont considérés comme des vieilles affaires. Maintenant, la vie des livres est vraiment courte avec toute la belle quantité de livres qui se publient chaque année. Donc, de ressortir des textes un peu plus anciens, même si pas si vieux que ça. Oui, c'est ça. ça nous permet de prendre du recul aussi sur notre démarche.
Mm-hmm. Avec joie. C'est vrai que la vie des livres est plutôt courte, alors que dans les faits, la vie d'un livre, c'est un peu éternel. Ils sont dans nos bibliothèques très longtemps, puis les œuvres vivent en nous super longtemps aussi. Oui. Mmh.
Puis ouais. Toujours d'actualité, comme on le voyait aussi avec l'œuvre de Catherine tout à l'heure.
Ouais, puis tu sais, il y a aussi l'idée que je trouve que je sais pas toi, mais se revisiter, c'est quand je termine l'écriture du roman, je veux plus jamais en entendre parler. Là. Je sais, cette horreur, tu sais, ouais. C'est terminé, c'est tellement de travail, c'est tellement obsédant, surtout à la fin, tu sais, on parle juste du texte et les relectures, les corrections d'épreuves, etc.
Ça on le connaît par cœur.
C'est hein. Ça. Fait qu'il y a un détachement qui est nécessaire. Puis de le revisiter pour en parler des années plus tard, je trouve que ça apporte un regard aussi. Je me rappelle dans quelle posture j'y étais, etc. Puis aussi de me dire, bon, ben, crime, ça allait quand même bien déjà. Fait que mes projets actuels devraient être corrects.
Ouais, on peut arrêter de douter.
C'est ça, tu sais, je trouve que c'est une belle façon. On le fait pas, tu sais, c'est super, un peu narcissique, là, tu sais, j'irai pas relire mes romans chez moi, dans mon salon, là, sans raison, en faisant, ah là là, c'était tellement excitant. Mais d'avoir un prétexte pour le faire, je trouve que c'est confortable.
Ouais. Mais ça, je me demande, en fait, j'ai des amis qui font des arts visuels, qui ont des toiles chez eux, ou des sculptures. C'est ça, on dirait que nos propres livres, on est gêné de les montrer, on est gêné d'en avoir des copies sur nous, on est gêné d'en parler. Mais pourquoi chez les littéraires, on a autant de doutes et de honte? Là, je pense qu'il y a bien des musiciens qui écoutent leur musique et qui sont comme, hey, ça sonne comme de la brique.
Nous, on s'excuse, là. J'ai fait un roman, je voulais pas vous déranger avec ça. Il y a cette posture-là, tu sais. On peut revendiquer la confiance en soi, je pense. Puis je pense que l'exercice d'aujourd'hui me conforte dans cette posture-là d'être. Contente.
La confiance.
Let's go.
Oui, on
comme tu
verrais,
les autres, il y a plein de domaines où ils le font. Mm-hmm.
Pourquoi pas nous?
Pourquoi pas nous?
Voilà. Ouais. Essayons.
Version trophée de vos livres, là, accrochés au-dessus du foyer.
C'est lourd.
Alors, oui, avec la résilience des corps, cet enfermement-là, est-ce qu'on le sent déjà dans l'extrait que tu vas partager?
Oui, bien, il y a beaucoup de questions de santé mentale là, qui étaient placé en introduction. Et oui, là, on s'en va. C'est un roman qui est construit avec deux narrateurs, narratrices. C'est un couple, donc, qui vont raconter l'histoire et je mélange les lecteurs et lectrices en passant temporellement de différents moments aussi, ce qui crée une certaine confusion mais une impression de rapidité. Donc c'est deux extraits, un rencontré par Clara, donc la femme du couple, et l'autre extrait est par Romain, l'homme du couple.
Nous t'écoutons.
Ma valise comme un bouclier, je traverse la porte que l'infirmier me déverrouille. Le soleil qui entre par les corridors vitrés m'éblouit. En dehors du département de psychiatrie, il fait toujours plus clair. À croire qu'ils nous tiennent volontairement dans le noir pour mieux nous abrutir. J'avance sans répondre aux salutations de l'infirmier. J'ai droit à 2 jours de congé d'hôpital et je n'en perdrai pas une minute. Romain est censé m'attendre à l'entrée, alors je fonce malgré mes jambes qui flageolent. Depuis un mois, je suis hospitalisée, à cause d'une dissociation. Ma première depuis qu'on est ensemble. Romain n'est pas dans le hall. Est-ce qu'il y a un deuxième hall? Non, je le connais par cœur, cet hôpital. Des civières me frôlent, des humains en uniforme me bousculent, une grosse cireuse de plancher se prend pour une zambonie, des proches cherchent leur malade. Romain n'est pas là. Je tiens de moins en moins bien debout. Mon équilibre décide de se payer un voyage dans le sud et je tangue. L'odeur du désinfectant me monte à la tête. Romain n'est pas là. Dans la boutique, il n'est pas en train de m'acheter des fleurs. Aux toilettes, il n'occupe pas l'urinoir. Devant le comptoir à café, il n'attend pas sa commande. Il est sûrement dehors, il doit être dehors, à fumer une cigarette parce que tous les Français fument. Il avait arrêté, mais il a dû s'y remettre pendant que j'étais partie parce qu'il était inquiet. Je pousse les portes tournantes. Les cicales crissent comme des guns à tatouage. Personne dehors, sauf une femme en robe soleil qui se plaint au téléphone de l'attente à l'urgence. Moi, coupée du reste du monde depuis trop longtemps, congelée par la climatisation de l'hôpital, je porte un chandail à manches longues, des bottes de cuir et un jeans. Romain n'est pas là, ni à gauche ni à droite. La sueur perle sur mon nez. « Clara !» Il sort de l'hôpital à toute vitesse, m'ouvre grand ses bras. Il est là, il est encore là, toujours chic, avec sa chemise bourgogne à col mao. J'ai l'air d'un enfant à côté de lui, habillé n'importe comment. Romain est là et pourtant, mes pieds refusent de courir jusqu'à lui, mes mains s'agrippent à la valise bouclier. « Ça va ?» me demande-t-il en me serrant contre lui tant que bien que mal. Son odeur me liquéfie. Je souris. Pour réponse, j'enfouis mon nez dans son épaule. « Viens, on va prendre le taxi, » me dit-il en m'amenant vers la rue. À la maison, je cherche mes repères. Même la couleur des murs me semble étrangère. « Est-ce qu'il y a quelque chose de changé ?»« Non, à part peut-être que c'est mieux rangé, » blague-t-il. « T'as pas chaud ?» Je m'échoue sur notre lit. Oui, je crève de chaud avec mon coton ouetté, mais je n'ose pas l'enlever devant lui. Une nouvelle pudeur s'est insinuée entre nous. J'ai surtout que je dois m'excuser pour ce que je lui fais vivre, mais je n'en ai pas la force. Pas encore. Je suis épuisée. Romain disparaît de la chambre quelques secondes, le temps que je retienne mon souffle pour entendre tous ses mouvements. Il réapparaît avec deux verres de jus d'orange. « T'as déjeuné ?» me demande-t-il en me tendant le verre. « On peut dire que oui. C'est-à-dire, j'ai mangé deux toasts au pain blanc. C'est pas très nourrissant. T'as faim ?»« Un peu, mais je veux pas manger tout de suite. Viens, » dis-je en tapotant le couvre-lit. Il s'étend à côté de moi, à une distance de coude de mon corps. Il vient pour parler, ferme ses lèvres, me détaille de ses yeux inquisiteurs, enlève ses lunettes, les dépose sur la table de chevet, rouvre la bouche, la referme. Je dois parler, je dois expliquer, mais je suis paralysée. Parce que je sais pas choisir les mots, je l'embrasse. Mon corps retrouve vite son habitude, ses réflexes sensuels, et je fais glisser mon chandail par-dessus ma tête. Nos corps se pressent l'un contre l'autre. Du bout des doigts, je parcours sa joue. La peau s'est amincie. Je l'ai inquiété tant que ça? J'embrasse de toute mon âme pour me faire pardonner, pour lui dire à ma façon à quel point j'en veux. « Attends, Clara, j'aimerais mieux qu'on parle avant. T'as pas envie de moi? Si, si, t'as pas idée, mais j'ai besoin qu'on parle. » Je soupire. Pas moyen de m'en sortir. J'essaie de le regarder dans les yeux, mais la tristesse dans ses iris me décourage. La chambre ne m'offre pas beaucoup d'échappatoires. Tous les murs me renvoient leur blancheur. Je m'excuse. « T'as pas à t'excuser, mais j'aimerais ça comprendre. Explique-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as vraiment? Personne voulait me parler à l'hôpital. » C'est compliqué. Tu sais, je t'avais dit pour les dissociations. Eh bien, j'en ai fait une. Je pensais que j'en aurais plus parce que ça fait presque 2 ans que j'en avais pas eu, mais bon, ça a l'air que je me suis trompée. Ça fait mal? La question me fait sourire. Non, pas physiquement. Ce qui fait mal, c'est de pas se rappeler ce que j'ai fait pendant 3 jours. C'est d'être coincée à l'hôpital le temps qu'ils ajustent mes médicaments. C'est de pas être avec toi. Tu te souviens de rien de ce qui s'est passé? Non, du tout. Donc ça, c'était la partie de Clara. Et si vous permettez, il y aura la partie de Romain. L'oreille appuyée sur la porte des toilettes où Clara est enfermée depuis 1 heure, cherche à entendre un mouvement. « Es-tu prête ?» Elle ne répond pas. « Allez, on va être en retard à ton rendez-vous. » Inquiète, j'ouvre. Assise sur la toilette, enroulée dans sa serviette, ses vêtements en boule à ses pieds, Clara ressemble à une statue de cire. Elle se tourne vers moi, ses yeux secs trop grands ouverts. Je m'approche sur la pointe des pieds. « Ça va ?»« Je veux pas aller à l'hôpital. »«
Pourquoi ?»«
Je veux pas aller à l'hôpital. » »«
Voyons, Clara, qu'est-ce qui se passe ? C'est juste un rendez-vous de suivi. »
Elle nie de la tête, tremble. Je me pense pour être à sa hauteur. « Clara, parle-moi. Tu sais que tu peux tout me dire. »«
Mais s'il me garde ?»
Ses yeux cherchent où s'accrocher. Je lui prends les mains et les serre, comme elle m'a demandé de le faire lorsque je pense qu'elle va se dissocier. « Je veux pas aller à l'hôpital. » Sur ma montre, les aiguilles indiquent 12h50. Il nous reste 10 minutes pour partir si on veut arriver à temps.
« D'accord, appelle-les au moins pour annuler ton rendez-vous. »
Je lui tends ses vêtements.
« Pas besoin de m'habiller si je veux pas à l'hôpital. »
L'irritation commence à me gagner et je détourne la tête pour garder mon calme. « Clara, j'ai pris congé cet après-midi pour aller au rendez-vous avec toi parce que tu me l'as demandé. On y va, ça va être moins compliqué. Je vais rester avec toi, promis. » Elle se lève, prend ses vêtements et sort des toilettes en me bousculant au passage. « Sauterelle.
Non, il n'y a pas de sauterelle aujourd'hui, tu comprends pas.
Mais comment tu veux que je comprenne si tu me dis rien? » Elle s'arrête, me dévisage et commence à gesticuler.
« C'est l'enfer à l'hôpital. Ils t'arrachent puis t'injectent des trucs dans les bras quand tu veux pas. »
Elle bouge tellement que sa serviette tombe par terre, mais elle ne se donne pas la peine de le ramasser.
« À l'hôpital, ils t'obligent à être un zombie parce que tu prends trop de médicaments. Il y a des patients qui te touchent quand tu veux pas. Il y a de la merde sur les chaises. Tu peux pas dormir. Les gens sont méchants. Ils te veulent du mal. Ils t'obligent à... » Ah!
Son visage passe du rouge au violet. Elle se met à hurler. Je l'attrape dans mes bras, lui caresse les cheveux encore humides.
« Allez, allez, c'est bon. On n'ira pas. »
C'était si pire que ça. Elle hoche la tête en cherchant son souffle entre ses sanglots. Je lui embrouche les paupières en la soulevant du sol pour l'amener jusqu'à notre lit. Elle pleure longuement contre moi. Je déteste quand sa tempête enfle et que tout ce que je peux faire, c'est d'attendre qu'elle se calme.
Promets-moi que j'irai plus jamais à l'hôpital. Je peux pas te promettre que tu n'iras pas à l'hôpital, mais je peux te promettre que je vais tout faire pour empêcher que tu retournes en psychiatrie.
Non, tout l'hôpital au complet. Mais si t'es malade, que t'as une pneumonie, une jambe cassée ou quand tu vas être enceinte, tu vas faire comment? Arrête! Elle s'étouffe dans ses larmes. Je l'embrasse le front, les cheveux, les oreilles. Promets-moi que j'irai plus en psychiatrie. Je te promets que je vais tout faire pour l'empêcher.
Vous venez d'entendre un extrait de La résilience des corps, lu par Marie-Ève Muller, qui m'a permis de réaliser que souvent, le premier lieu de l'enfermement, c'est en soi. J'ai l'impression.
Oui, oui.
Pas besoin que ce soit ben, ben plus loin, là. Ouais, que soi-même.
Oui, ben finalement, j'ai pas choisi des passages à l'hôpital. J'ai choisi des moments où on en sortait, mais qu'au final, la peur reste ce... ces traumas liés à l'enfermement continuent de transformer le personnage.
Mm-hmm. Même une fois sorti des lieux, tout à fait. Mm-hmm. L'enfermement la suit, quoi.
Oui, c'est une menace toujours constante sur les épaules de Clara.
Mm-hmm.
Mais moi, je me rappelle Confidence de star, qu'à la lecture, j'étais allée lire la fin.
Non!
Parce que c'était insupportable pour moi de savoir... Tu sais... De m'imaginer être ce personnage-là, tu sais, puis ce genre de truc-là peut, tu sais, c'est un vrai truc, tu sais, ces dissociations-là, tu sais. Puis, tu sais, j'ai eu des grosses opérations, j'ai expérimenté ça d'une autre façon, disons-le, comme ça. Fait que peut-être que ça m'a plus touché de voir que, OK, ce canal-là dans mon cerveau, chez d'autres personnes, est encore plus bouleversant, là, tu sais. Il y a une perte réelle de contact avec la réalité. Fait que je lisais, puis je trouvais ça trop insoutenable de pas savoir comment ça se terminait. Fait que j'ai triché, je suis allée à la fin. Fait que je pense que l'enfermement était bien représenté dans ton roman pour que ça vienne autant me bouleverser à oui. la lecture, là.
Ouais, toi, t'étais enfermée dans le livre. Il a fallu que t'ailles lire la fin c'est pour ça, en sortir.
J'ai cherché la porte.
T'avais la chance d'avoir l'échappatoire.
C'est ça, il y avait une porte, je suis allée la chercher.
C'est fou, ça a reconduit, ouais, cet effet-là chez le lecteur. On parlait d'enfermer le lecteur tantôt. Ben, Marie-Ève, c'était peut-être pas voulu, mais tu l'as fait un peu, je crois.
Mais j'ai voulu le construire vraiment comme un thriller. C'est un roman policier sans meurtre, là, où justement, on tourne, c'est des courts chapitres, les phrases sont courtes, donc ça se livre super vite. On a vraiment envie de savoir qu'est-ce qui s'en vient ensuite. Et pourtant, quand on est dans l'enfermement, c'est en longueur, ça s'étire, on est en attente. Mais c'était pas ça que j'avais envie de montrer, c'était l'intensité qu'il y avait dans les deux personnages.
Mm-hmm. Faut-il que l'enfermement, ça soit toujours lent?
Ben, tu sais, je peux penser à des situations où ça se passe rapidement d'être enfermé. Mais je pense que ce que... c'est comment ça se déploie en nous. Tu sais, une minute plate, c'est long, là.
Oui.
Une minute, le fun, c'est pas... Tu sais, il y a cette idée-là aussi, le rapport au temps dans l'enfermement. Puis toi, dans ton roman, avec les deux voix qui s'alternent, oui, il y a une vitesse de lecture, mais en même temps, il y a une lenteur parce qu'on n'a pas tout de suite la suite pour Clara. On n'a pas tout de suite la suite pour Romain. Fait que ce temps-là s'étire aussi pour nous.
Et il manque des clés pour comprendre jusqu'à la fin, pour que là, tout à coup, tout fait sens, ou pas de sens, mais en tout cas, pour que l'histoire termine de se déployer.
C'est ça, fait que c'est une espèce de temps dilaté, je pense, que le temps de l'enfermement, qui s'inscrit pas dans une horloge qu'on connaît nécessairement. T'sais, c'est pas un temps d'aiguille de montre, c'est un temps dans son corps, puis ces temps-là sont différents.
J'ai l'impression que dans le plan puis dans la résilience des corps, l'enfermement est quand même quelque chose d'un peu étouffant ou négatif ou restrictif. Ou Marie-Ève, quand tu parles de ton huis clos sur un voilier, on pense à un voyage, ça libère, ça ouvre, on voit l'horizon. Tu sais, il y a un air grand devant. Est-ce que vous imaginez des enfermements qui libèrent? Tu sais, t'es enfermé sur le voilier, mais t'es à la fois libéré du quotidien, des obligations.
Non, dans mon cas, mais je pense que j'écris à partir de mes propres traumas, puis je les rends pire, parce que dans la vie, c'est une des qualités des personnes créatives, être capable de mettre un peu plus de gras, de surligner et tout ça, puis d'en faire quelque chose de plus extrême. Mais pour la résilience des corps, je suis partie d'un moment où je me suis sentie enfermée, puis en même temps, je suis allée dans ma propre intensité, puis je me suis dit, ben si, mettons, ma fonction bride de mon intensité fonctionnait pas. Qu'est-ce que ça pourrait être? Et de là est né un peu le personnage de Clara, où dans une chicane, là, tu te dis, ben, jusqu'où j'aurais pu aller finalement? Si j'avais pas eu tous mes outils psychologiques pour être capable de me gérer, puis que j'avais une condition qui me permettait pas d'avoir ces outils-là, ce que je n'ai pas. Mais c'est un travail un peu empathique, mais ça m'a permis aussi de me libérer de certains traumas liés à des enfermements. Puis c'est un peu le même travail que je fais avec le roman de huis clos sur le voilier. J'ai fait un voyage en voilier, puis ce que je pensais être une grande quête de liberté, finalement, tu te rends compte que t'es quand même vraiment restreint, puis il se passe de quoi avec l'équipage. Fait que c'est plus partir de ça, puis aller vraiment... Si j'avais pas fait les mêmes choix, ce que tu disais un peu, si
ouais.
C'est un travail d'empathie pour soi-même aussi, pour voir, bon, mettons, on fictionnalise, on enlève tel trait, on donne tel trait parce que c'est plus intéressant, puis on coupe des bouts, puis finalement, c'est plus de l'autofiction, c'est vraiment rendu une fiction, mais qui est partie du matériau de ce qu'on a déjà vécu et qui permet peut-être de rendre le tout plus réaliste. Quand j'ai écrit ça, j'étais en maîtrise, en recherche-création, puis... On est beaucoup amené à réfléchir à notre processus, mais à lire aussi beaucoup. Mm-hmm. Puis je pense que c'est un processus qui se continue par après. Neil Bisundat, qui est prof ici à l'Université Laval, parlait beaucoup de écrit sur quelque chose que tu connais. Fais pas de la fiction à partir de toi-même, mais écrit sur quelque chose que tu connais, que tu comprends. Ça donne quelque chose de plus vrai, de plus proche de la réalité. Et j'ai lu Triste Tigre récemment de Neige Chinot. Et ça m'a vraiment amené à réfléchir justement à l'écriture du trauma, parce que oui, c'est un roman sur un roman récit sur l'inceste qu'elle a vécu, mais c'est surtout, je pense, une réflexion sur comment transmettre son trauma sans que ça soit nécessairement une histoire linéaire, sans que ça soit nécessairement juste collé sur notre peau, mais qu'on est capable d'en faire quelque chose de plus universel, de quelque chose qui va faire sens pour les autres. Et ça va, je pense que ça va teinter à partir de maintenant tout ce que je vais écrire, parce que des fois, on a l'impression qu'on est capable de se mettre dans les bottines des autres, mais au final, on part toujours de notre expérience à nous pour être capable de raconter quelque chose. Et je sais pas concrètement comment ça va se lire différemment dans les prochains textes que je vais écrire, mais je crois que ça va teinter ma sensibilité dans l'écriture.
Oui, donc toi, j'ai l'impression que tu écris l'enfermement pour te libérer.
Oui, ouais, c'est ça. Mais les personnages sont vraiment enfermés.
Puis je pensais aussi au lieu qui est important. Tu sais, là, on avait parlé tout à l'heure d'un appartement, un 3,5. Là, on parlait du voilier. Puis là-dedans, mettons, on parle de l'hôpital, puis on parle d'enfermement et on parle de vécu, de trauma. Je pense qu'on a toute une expérience différente de l'hôpital. Moi, c'est sûr, c'est ça, j'associe ça à l'enfermement, d'être un peu contraint, puis de vivre, on vit souvent des choses négatives à l'hôpital quand même.
Rarement physiquement plaisante.
Exactement, ouais. C'est ça. Et puis je me demandais, toi, c'est ton expérience de l'hôpital peut-être, ou qu'est-ce que ça signifie dans ton imaginaire? Comment ça t'a influencé dans l'écriture? Qu'est-ce que tu voulais toucher un peu avec ce lieu-là?
Ben, je suis partie de mon propre enfermement. J'ai été deux fois hospitalisée en psychiatrie dans ma jeunesse. Mais ça a été des expériences complètement traumatisantes. J'ai pas le choix de le dire autrement. C'était pas agréable. Ça a pas été des moments que j'ai chéri puis qui ont laissé des séquelles sur moi. Et donc, je suis partie de ce sentiment-là, sans avoir du tout le même niveau de problématique psychologique que mon personnage Clara. Mais je pense que j'avais une certaine colère à sortir de moi envers l'hôpital, envers le système de psychologie, de psychiatrie qu'on a au Québec. Et ça a fait quand même beaucoup de bien de le sortir, même si ça n'a pas été l'écriture thérapeutique. On y croit moyen, là. Mais au final, ça a probablement fait un peu de bien, même si ça valait pas, c'était pas une thérapie non plus en soi, là. Mais bref, c'est parti un peu de ce matériau-là. Mais heureusement pour moi, accoucher m'a rétabli mon lien de confiance avec l'hôpital.
C'est ça, je pensais, je disais négatif, puis après j'ai pensé, les accouchements, c'est des beaux moments. OK, oui, il y a ça aussi, c'est sûr.
Mais pas physiquement agréable
non plus. Non, c'est vrai. C'est vrai.
Ça dépend un peu aussi de tout le monde, tu sais, il y a des expériences plus plates, là.
Oui, oui.
Mais tu sais, je lisais ton livre avant de venir ici, encore une fois, dans ma boîte roulante. Puis je me rappelais un inconfort, c'est-à-dire que moi... C'est un travail de fiction dans le sens où j'ai fait quelque chose de drôle. Hein, tu sais, il y a un aspect ironique, il y a un travail là-dessus, mais en décalage, tu sais. Puis je me rappelle que quand j'écrivais, cette posture-là, je la trouve inconfortable parce que je, tu sais, moi, il se promène dans la, dans l'institut de psychiatrie, ben, tu sais, j'appelle ça l'institut, mais tu sais, ça prend pas un grand détective pour comprendre qu'on est, puis je voulais pas le nommer justement pour me permettre de rester à distance. Mais ça reste que je joue un peu avec des gens malades, j'invente des pathologies, je fais, tu sais, mon personnage décide de gérer la médication de ses patients tout seul parce qu'il trouve que les spécialistes font pas leur job, tu sais. Puis c'est un peu inconfortable de travailler ces thèmes-là dans une posture romanesque, mais en même temps, j'écris à partir de ce que je connais, mais ce roman-là a été écrit en partie avec l'aide, gros guillemets, de Romain Gary, son travail, etc. Le fait qu'il a utilisé plein de noms de plumes, cette espèce de jeu-là avec lui-même. Mm-hmm. Tu sais, on l'a pas su tout de suite, là. En fait, c'est drôle parce qu'il s'est fait pogner pour plein de noms avant de réussir à pas se faire pogner. Mais c'est ça, fait que ça, c'est inconfortable aussi de jouer avec les pathologies, pour le dire comme ça. T'sais, surtout quand je suis devant quelqu'un qui... j'aurais pas été à l'aise de le dire, tu l'as nommé, que t'es écrit à partir de tes traumas, puis il y a moi qui est comme, on va faire des rigolades, tu sais, avec ça, fait que c'est... Mm.
Mais sans que le roman soit particulièrement humoristique, là, je pense que le plan était quand même très sérieux.
Oui, tout à fait, mais tu sais, c'est parce que je passe par l'ironie, tu sais, qui est comme une forme de blague sérieuse, fait que ça me permet d'avoir des lunettes, tout en faisant des blagues. Mais c'est ça, fait que c'est ce jeu-là, quand tu joues avec ces sensibilités-là, je le trouve plus difficile... Maintenant que je prends de l'âge, que je suis en contact avec, tu sais, que je développe cette empathie-là aussi, je me relisais en me disant, si j'avais quand même une belle naïveté de me permettre de faire ça, là, j'aurais peut-être plus de retenue.
Ouais, mais puis en même temps, faut pas tomber dans l'autocensure non plus. Je pense que c'est l'avantage de la création, de se permettre de faire un pas de côté, d'essayer d'être plus empathique, d'être plus dans la compréhension, de... sans voler le micro à quelqu'un non plus, c'est juste d'être capable de faire un bon travail. Puis bon, je dis pas que mon roman est réaliste et que c'est un documentaire sur comment sont l'état de la psychiatrie, ni comment on cherche les personnes disparues. Là, j'ai pas vraiment validé si la SQ travaillait comme ça, puis même si ça serait la SQ, tu sais.
C'est pas grave.
C'est ça, il y a plein de choses qui ne sont peut-être pas vraiment vraisemblables si on est dans le milieu. C'était pas ça le but, c'était pas de faire un documentaire, c'était vraiment de raconter une histoire qui fait vivre des émotions aux gens, puis je pense que là-dessus, ça a été réussi si je vois les commentaires que j'ai reçus. Là, mais c'est ça. On a le droit d'inventer des histoires, même si c'est pas des histoires qui partent de notre quotidien.
Mais c'est ça. Toi aussi, tu restes dans la fiction, tu sais.
Oui.
C'est ce jeu-là qui est intéressant aussi, je trouve. T'sais, tu le disais, là, tu as empiré des situations, etc. Mais tu sais, écrire, ça permet de parler vrai, là.
Mm-hmm. Ouais, vous vous êtes pas enfermée non plus.
Non,
c'est vous-même, là. D'autrice. Un grand merci, Catherine D'Anjou et Marie-Ève Muller. Cette heure a passé à toute vitesse.
Déjà
enfermée
fini.
Dans ce local, Chiz. Et merci beaucoup d'avoir participé à cette dernière édition de l'année du Cabaret du Crachoir.
Oui.
Ève Nadeau, co-animatrice, merci à toi pour cette
belle
saison.
Merci à toi, Maxime. C'était un grand plaisir. Merci aux invités.
Merci à vous.
Et pour en avoir davantage, ben, on se retrouve mercredi au Périscope. C'est Catherine D'Anjou dans le cadre du festival Jamais lu qui va présenter I Am Fake News, une histoire de survie, donc avec une mise en lecture par Caroline Fouché. On l'aime bien gros. Achise, allons y assister. Et Marie-Ève Muller, on surveille la sortie à l'automne 2024 d'un inventaire des silences. C'est en poésie cette fois-là qu'on pourra te lire. Un grand merci à vous deux. Et Ève, le tout dernier extrait audio d'aujourd'hui.
Eh bien...
T'avais de la suite dans les idées?
Absolument. On parle d'enfermement et Ariane Roy, eh bien, pour sortir de ça, nous dit sortez d'or. Alors, sortir d'or d'Ariane Roy pour terminer.
C'était le Cabaret du Crachoir avec vos animatrices, Ève et Maxime.